L'imposture, quatrième partie, chapitre premier. Les fenêtres se vidèrent tout à coup de leur lumière, puis elle réapparut, ainsi qu'une double raie livide qui s'évanouit à son tour. Alors la nappe grise instantanément répandue se mit en marche, défila majestueusement, noire vers son centre, éclairée vers les bords d'un jour blême, avec une extraordinaire lenteur. Mais presque aussitôt elle se piqua de points aveuglants, flotta une seconde, commença de tourner furieusement, s'ouvrit de haut en bas, et découvrit de nouveau la fenêtre calme, traversée du même rayon oblique, comme suspendue dans l'air du soir. L'abbé Chevance se frotta doucement les yeux. « Quel ennui, dit-il tout haut, quelle infirmité! Que faire ?» Il s'assit au hasard sur le lit, soupira. Son regard errant était plein de la tristesse innocente des enfants, si ingénue qu'elle ressemble à la joie, et sa bouche avait la même moue impatiente qui annonce les larmes ou le rire, on ne sait. La porte s'ouvrit brusquement. « Madame de la Follette, dit le pauvre prêtre, je viens d'avoir un étourdissement. À la fin, n'est-ce pas? Ça m'inquiète, hein, n'est-ce pas ?» Mais la concierge se contenta de hausser ses fortes épaules. « Monsieur de la Follette, dit-elle, est retenu ce soir à son bureau et dînera en ville. J'ai fait réchauffer l'haricot vert avec une petite saucisse. Je demande à monsieur si je peux les monter. C'est déjà la demi de 7 heures. » L'abbé Chevance devint pourpre. « Je suis un peu en retard, avoua-t-il. Je n'y pensais pas. Je suis réellement indisposé. D'ailleurs, j'avais laissé la fenêtre ouverte pour être sûr d'entendre sonner l'horloge de Saint-Eustache. Alors ? Eh bien, madame de la Follette, comment dirais-je ? Vers le soir, voilà que j'ai des bourdonnements d'oreilles à présent. La tête lourde, comprenez-vous ? En somme, je ne suis pas très bien, pas à mon aise, pas tout à fait dans mon état normal. Quel ennui ! Qui s'écoute trop meurt bientôt, fit madame de la Follette. Le fait est, depuis quelques jours, passé 5 heures, je vous vois rouge comme un coq. Elle s'arrêta, tenant serrée contre sa poitrine, entre ses énormes bras, la petite table de bois blanc, et toisa son interlocuteur de haut en bas avec une grimace de dégoût. « Monsieur de la Follette, dit-elle enfin, est d'avis que le prêtre devrait se faire saigner chaque quinzaine. Autrement, il faut que le sang vous étouffe, misère !»« Oh, je ne suis pourtant pas sanguin, protesta l'abbé Chevance. Comme vous voyez, je mange fort peu. Peut-être que je ne mange pas assez. Néanmoins, je me force beaucoup. » « Qui mange à contre-cœur se prépare bien des douleurs, » remarqua simplement madame de la Follette en dépliant la nappe. « Je ne me mêle pas des affaires d'un chacun. Liberté pour tous. » Elle tourna la tête, écouta. Zut et crotte pour le réveil. Il ne se taira donc jamais, cet animal-là. Elle courut dans la pièce voisine et reparut aussitôt, un réveil de nickel à la main qu'elle jeta violemment sur le lit. « C'est plus fort que moi, je ne peux plus l'entendre. Il me tire le nerf de l'estomac, je deviendrai folle. » Avec ça qu'il en est encore à marquer le quart moins de 10, l'imbécile bête. « Madame de la Follette, dit sévèrement l'abbé Chevance, vous l'avez détraqué. Voyez-vous, il faut être juste, même pour les pauvres choses inanimées. L'ouvrier a fait de son mieux, madame de la Follette. Il a dû monter cette mécanique avec grand soin, avec le plus grand soin. » Nous n'en ferions autant, ni vous ni moi. Dès lors, il n'est pas permis de mépriser son travail, je vous assure. Ah, madame de la Follette, nous ne sommes pas bons les uns pour les autres. Non, nous ne sommes pas bons. Je ne voudrais pas vous froisser, madame de la Follette, mais nous devrions nous attacher à vivre et mourir dans la paix. Vous parlez bien, dit généreusement la concierge, seulement vous agissez tout de travers. Monsieur de la Follette n'aime pas le prêtre, c'est un homme qui s'est fait lui-même. À 15 ans, il suivait les cours du soir. Comme, bien entendu, il en sait plus long que vous et moi. N'empêche que j'admire sa force d'âme à supporter les contrariétés, les rhumes et tout. L'instruction fait beaucoup, d'accord. Mais monsieur de la Follette n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, du moins sa famille. Son arrière-grand-oncle fut colonel ou capitaine sous l'Empire. Ainsi, voyez-vous, c'est l'hérédité, c'est la nature. Au lieu que, passez-moi l'expression, vous geignez du matin au soir. Hier, mal à la tête, aujourd'hui des étourdissements, comme on dirait des vapeurs. pas de sommeil, pas d'appétit, etc. Rapport à ces misères, non, vous n'êtes pas facile à servir. Je n'en peux plus. Étonnez d'abord une, si c'est pour pas toucher à mon haricot, inutile que je vous le monte 5e, avec les varices que j'ai. Madame de La Follette avoue à l'abbé Chevance, il y a beaucoup de vrai dans ce que vous venez de dire. Je ne vais pas bien. Oh, je ne suis pas dans mon assiette ordinaire. Encore ? Eh bien oui, voilà, fit-il avec un sourire désolé. N'en parlons plus. Bon, bon, je lis en vous comme dans un journal, reprit dédaigneusement la concierge. En politesse et manière, tout simple abbé que vous êtes, vous valez le jésuite. Seulement, vous gardez les choses sur le cœur, ça me dégoûte, à parler franchement. Dites quoi ? Dites-le donc. Jamais, du moins depuis bien longtemps, l'ancien curé de Costerelle-sur-Meuse n'avait résisté à des sommations pareilles. Avant de répondre, il regarda tristement ses souliers. « Madame de La Follette, déclara-t-il avec force, au terme de notre petite convention, vous vous étiez engagée à cirer mes chaussures chaque matin. »« Engagée » s'écria-t-elle, « engagée ! Monsieur Chevance, votre mauvaise foi me fait honte. Pour cirer vos chaussures, il faudrait que je les trouve à votre porte, ou vous négligez régulièrement de les mettre par oubli ou par méchanceté. Quand j'arrive, elles sont à vos pieds. Monsieur Chevance, défaut d'éducation n'est pas vice. Je vous ferai observer néanmoins que je ne suis pas une femme à me mettre aux pieds de personne pour décrotter les souliers. À présent, voulez-vous que je monte l'haricot, oui ou non ? De surprise, le pauvre prêtre avait laissé tomber le mouchoir qu'il serrait entre ses doigts, et il contemplait son bourreau d'un air grave et attentif. « C'est vrai, fit-il enfin, c'est la vérité. J'oublie de les déposer à la porte. Je dois vous dire, Madame de La Follette, que je crains d'avoir jusqu'ici vécu dans le monde avec une excessive simplicité qui finit par attirer l'attention. Or, pour être irréprochable, un prêtre doit passer inaperçu. Le clergé parisien, Madame de La Follette, a une réputation de tenue, d'élégance même. Ce n'est pas à un ancien servant de campagne qu'il appartient d'avoir une opinion là-dessus. Mieux vaut se conformer aux traditions et aux usages. Je ne vous cache pas que cela me coûte un peu. Ainsi, je me fais raser désormais 2 fois par semaine, et c'est une grosse dépense. Il en sera ce que Dieu voudra. Je vous l'ai répété souvent, Madame de La Follette, ma nomination est attendue d'un moment à l'autre. Je serai bientôt curé. Peut-être même aurai-je la responsabilité d'un vicaire. Je devrais faire honneur à mon petit monde. Vous m'avez dit, mais je ne vous crois pas. Du moins, reprit Madame de La Follette, je pense qu'on vous a raconté des blagues. Un curé de Paris, voyez-vous, c'est autre chose. Bien sûr, répondit l'abbé Chevance. Seulement, on manque de bras. Il faut faire vite. C'est prodigieux. D'ailleurs, ma paroisse, il articula ces 2 mots avec une douceur divine, ma paroisse est une de ces petites paroisses de banlieue, toutes nouvelles. Songez, pas encore de nom. Si pauvre, pensez donc, pas même de nom. Il croisa d'instinct ses 2 bras, comme pour serrer ce trésor sur son cœur. Sûr qu'on vous a fait une blague, répéta la femme obstinée. Vous croyez déjà tenir la bonne combine, c'est fatal. Tout sérieux qu'il est, monsieur de La Follette y a été trompé la même chose. Il a cru passer l'année dernière employé principal au Mont-de-Piété de la rue de Rennes, Bernic. Je vous affirme, Madame de La Follette. Oh, pour affirmer, vous affirmez. Mais à votre âge, on sait vivre, on raisonne. Entre nous, tenez, autant régler maintenant nos petites affaires. Les bons comptes font les bons amis. Une supposition que j'aurais écouté Monsieur de La Follette, et je n'aurais jamais loué à un fonctionnaire, surtout curé. Ce qui est fait, ne revenons pas là-dessus. Je passe pour être mufle, mais de plus loyal dans le commerce, vous n'en trouverez pas. Réclamer son dû n'est pas tourmenter le client, hein ? Je vous préviens donc que le 1er mois payé d'avance, 200 francs du meublé, 300 du manger, est, comme on dit, écoulé depuis près d'une semaine. Reprenez-moi si je m'exprime mal. Vous vous exprimez très bien. Parfaitement, parfaitement, balbutia le pauvre prêtre. Madame de La Follette, je m'excuse de mon oubli, de ma distraction. Oh, je me suis mis des charges sur les bras, de grosses charges. Il tira de sa poche un second mouchoir, le posa soigneusement sur la cheminée, puis ouvrit son porte-monnaie et y fouilla longuement des 2 doigts avec un sérieux extraordinaire. « Je paierai demain, » dit-il enfin. « Je vous paierai demain soir sans faute, madame de la Follette. Je suis un peu gêné pour le moment. » Il reprit son mouchoir et s'essuya convulsivement le front et les joues. « C'est seulement malheureux que j'y sois de mes sous, » conclut madame de la Follette. « Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'honnête homme vit selon ses moyens. À bon entendeur, salut. Maintenant, je vais me payer de monter et de descendre vos 5 étages jusqu'à demain soir, gratis pro deo, comme vous dites à la messe. » « Arrêtez, madame de la Follette, un moment, » fit le vieux prêtre avec un profond soupir. « Je sais que je gouverne très mal mon petit budget, je n'ai pas d'ordre. Oh, je serais désolé que vous fussiez tenté de juger, d'après moi, mes confrères. En général, nous sommes de bons clients, de très bons clients. Vous, vous êtes une femme économe, avisée. Le bon Dieu a béni aussi ces femmes-là, madame de la Follette. Ne croyez surtout pas que je méprise l'ordre. Il est beau d'avoir de l'ordre. Il y a de l'ordre dans le paradis. Pour moi, je me suis toujours contenté de peu. Je ne suis pas ce qu'on appelle un homme d'argent. Mais je vous le répète encore une fois, madame de la Follette, je dois faire de gros sacrifices en prévision de ma nomination. Il y a un rang à tenir. J'ai reçu à ce sujet les instructions très précises. J'ai le devoir de m'y conformer. Lorsque mon presbytère sera bâti... Elle est bonne, remarqua la concierge amèrement. Il parle d'être curé et il n'a même pas de presbytère. Certainement, certainement, c'est ennuyeux, concéda l'abbé Chevance, toujours rêvant. Du moins ai-je ici un domicile convenable, très convenable, n'est-ce pas? Je puis recevoir dans la pièce à côté, c'est mon parloir. D'ailleurs, nous sommes à 2 pas de la porte de Vanves, 45 minutes de tramway, je suis à pied d'œuvre. Le petit ennui, c'est de partir de bonne heure, parce que je ne peux voir mes paroissiens que très tôt ou très tard, au choix. Le jour, ils dorment. Ils dorment le jour? Et qu'est-ce qu'ils font donc, vos paroissiens? C'est surtout des chiffonniers, avoua gravement l'abbé Chevance. Oh, il y a chiffonniers et chiffonniers, notez bien, madame de la Follette. Des chiffonniers? Je vois ça d'ici. Un wagon réformé dans la zone, avec une cabane à lapins, des gosses autant que les lapins, et des poux en veux-tu en voilà. J'aime mieux vous prévenir, monsieur de la Follette a épousé une simple ouvrière, mais s'il rencontre jamais un de ces pouilleux dans l'escalier, aussi vrai que Dieu tonne, il ira le déposer sur le trottoir avec un coup de pied où vous savez. Vu ? Je m'arrangerai, dit l'abbé Chevance. On peut toujours s'arranger. Je vous ai affirmé que j'allais prochainement être nommé curé, madame de la Follette. Naturellement, ce n'était pas curé de la Madeleine. En conscience, je ne pense pas vous avoir trompé sciemment. Je suis à un tournant, c'est cela même, à un véritable tournant de ma vie. Si vous patientez un peu, tout ira bien. Le point noir, voyez-vous, c'est ma santé. 8 heures qui sonnent, interrompit cruellement la patronne, l'haricot est sûr d'attacher. Permettez, permettez, dit l'abbé Chevance, je voudrais. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je me passerai bien de souper. « Non, reprit-il découragé soudain, avec une affreuse moue de sa bouche tremblante, je ne crois pas possible de manger ce soir. Je me sens trop mal. »« Oh, vous êtes plus douillet qu'une femme enceinte, » remarqua madame de la Follette, sur le ton de l'indifférence absolue. « Des gens qui se frappent comme vous ne vont pas loin. J'ai été fille de salle à la pitié, moi qui vous parle, j'ai l'expérience. Vous filez un mauvais coton. »« Est-ce possible ?» fit le pauvre prêtre, les larmes aux yeux. « Je devais voir le médecin, n'est-ce pas? C'était une dépense sans doute, mais c'était une dépense utile, nécessaire. Mais voilà sévèrement puni. J'aurais bien de la peine à mourir, madame de la Follette. » Elle porta les deux mains à sa bouche et gonfla les joues, toute jubilante d'un rire intérieur d'une atroce ingénuité. « Ça n'amuse personne, dit-elle. C'est un travail que je donnerais de bon cœur à faire aux voisins. Tout de même, ajouta-t-elle après un silence, vous n'êtes pas ordinaire. » De la Follette, vous avez jugé du premier coup. On dirait d'un gamin. Pas de défense et des réflexions qui n'en sont pas. Vrai, entre nous, j'aurais cru qu'un prêtre avait plus de connaissances. Et pourquoi donc que ça vous coûterait tant de mourir? Oh, madame de la Follette, je ne crains pas la mort, précisément, vous comprenez? Seulement, j'étais content d'avoir beaucoup d'ouvrages, je m'étais tracé un petit plan. Il regarda furtivement l'étroite glace de chevet, passa dans ses cheveux une main fébrile. Évidemment, nous n'en sommes pas là, bien entendu. Mais si j'étais malade, cela ferait le plus mauvais effet. Madame de la Follette, L'évêché veut pouvoir compter sur ses collaborateurs, je l'ai senti. Les circonstances ne permettent pas les demi-mesures. À la guerre comme à la guerre, tant pis pour les éclopés. » Il eut de nouveau ce rire d'enfant, d'un accent si douloureux, mais sans aucune espèce d'amertume. « Enfin, voyons, madame de La Follette, » il s'approchait de la fenêtre, tâchait de se placer en pleine lumière. « Répondez-moi franchement, comment me trouvez-vous ?»«
Comment je vous trouve ?»«
Oui, physiquement. » »«
Physiquement ?»«
Bah, vous me comprenez très bien. Madame de La Follette, permettez-moi de vous le dire, vous avez tort de vous moquer de moi. » Les malades sont bien à plaindre. Oh oui, c'est un état bien humiliant pour la nature. On ne fait rien de bon, le goût de la prière s'en va. On ne pense qu'au travail qui nous presse, aux occasions manquées, au temps perdu, à ce pain inutile qu'on mange. Je ne parle pas de petites douleurs ça et là. Grâce à Dieu, je ne souffre guère, je n'y porte pas trop d'attention. Mais voilà, je crois que mes forces déclinent. Je suis sur une pente, madame de La Follette. Elle le fixait curieusement, de ses yeux calmes et plats, la bouche un peu crispée, avec ce rien de cruauté presque animale, tel qu'on pouvait la voir chaque dimanche au jardin des plantes, face à la cage du boa, contemplant devant la bouche énorme et molle le petit lapin hérissé. « Je finis par croire que vous n'avez pas de méchanceté, » dit-elle pensivement. « Pourquoi faut-il que depuis une semaine, vous me rompiez la tête avec vos maladies ?»«
Oh, depuis une semaine, vous exagérez un peu, madame de La Follette. Je ne souffre vraiment que depuis avant-hier. »«
Non, mardi tout au plus. » J'ai été surpris, bousculé, voyez-vous, pris de court. En somme, les étourdissements surtout m'inquiètent. La vue baisse, j'entends mal. Pourrais-je seulement presser, confesser? Peut-être aussi vois-je les choses pires qu'elles ne sont. Alors je me permettais de compter sur vous. Une personne non prévenue juge très bien des apparences, de la mine, que sais-je. Le croiriez-vous, madame de La Follette? J'ai si peu l'habitude de m'observer que mon propre visage même ne m'est pas, comment dirais-je, trop familier. Jusqu'à ces derniers jours, je me regardais rarement dans la glace, c'est un fait. Que voulez-vous que je vous dise, monsieur Chevance? De plus mauvaise mine, il n'y en a pas. Après ça, vous vivrez peut-être 100 ans, sait-on. Je vous le souhaite. N'empêche que vous n'avez pas beaucoup d'amour-propre pour aller demander de la sympathie et des consolations et des renseignements et tout à une étrangère qui, elle, ne vous a jamais rien demandé que son dû. » Le pauvre prêtre porta vivement les deux mains au creux de ses reins et, se renversant légèrement, tendit vers le mur son misérable visage dont toutes les rides se creusèrent à la fois. L'espèce de souffrance hallucinée qui traversa tout à coup son regard fut telle que la concierge tourna la tête et fit mine, par décence, d'essuyer un verre avec le coin de son tablier. « Vous voyez, disait l'abbé Chevance de sa voix douce et paysanne, c'est sérieux, madame de La Follette, c'est très sérieux. Ah, si son éminence m'avait vu ainsi, j'étais perdu. J'ai tant répété à ces messieurs que j'avais une santé de fer. Cela me tient aux reins, madame de La Follette. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Il s'essuyait gravement le front de son mouchoir roulé et serré dans ses doigts. « Pour moi, vous aurez fait un effort, probable. »«
Mon Dieu, je l'ai d'abord cru, » fit-il piteusement.
« Mais il y a d'autres symptômes. Je dois vous dire, madame de La Follette, que les fonctions rénales me paraissent s'effectuer difficilement, parcimonieusement. »«
C'est-y que vous ne pissez plus ?» dit-elle avec une grimace.
Le bonhomme rougit, balbutia. « Vous avez de l'audace, quand même, » reprit la grosse femme indignée. « Parlez de ça à moi ! Quelle horreur ! A-t-on idée d'un toupet pareil ? Et voilà 3 quarts d'heure que je passe à vous écouter causer ainsi. » Elle empoigna rageusement la porte et d'une saccade de sa main énorme l'ouvrit toute grande. Alors la voix de l'abbé Chevance la cloua littéralement sur le seuil. « Madame de La Follette, disait-il, jusqu'à présent vous n'aviez offensé qu'un ver de terre comme moi, peu de choses, enfin rien du tout. Cette fois vous venez d'offenser gravement le bon Dieu. » « Il faut réparer, madame de La Follette, il faut vous hâter de réparer. »«
Oh, nous sommes des étourdis, nous ne nous rendons pas compte. Il n'est pas toujours facile de prendre notre part de la souffrance du prochain, de la comprendre. Seulement, il ne faut jamais la tourner en dérision, la déshonorer, madame de La Follette. Dans notre pauvre petit monde, voyez-vous, la douleur, c'est le bon Dieu. On passe à côté de lui sans le reconnaître, bon, mais l'ayant reconnu, l'outragé, oh, cela est grave. » Très grave. Vous vous hâtiez de sortir, madame de La Follette. Vous avez failli démolir la porte. Vous croyez avoir peur de moi. Peur de moi? Quelle idée! Ce n'est pas de moi que vous avez peur, pensez donc. C'est de vous-même. Vous avez été cruel exprès, comprenez-vous? C'est comme si vous aviez tué votre âme pour en finir d'un seul coup. Oui, j'ai vu mourir votre âme, madame de La Follette. Et maintenant, vous avez honte. Tant mieux d'avoir honte. Mais en somme, hein, ce n'est qu'un simple mouvement de la nature, vous sentez? Nous nous tenons devant les anges avec ce cadavre dans les bras, comme Caïn. Nous sommes bien embarrassés. Qu'est-ce que Dieu nous demande de plus? Peu de choses. Le regret d'avoir fait le mal, le désir de le réparer, parfois un seul petit regard de rien vers le ciel, le souhait d'être meilleur, de savoir, de comprendre. À chacun selon ses forces, selon les lumières qu'il a reçues, les grâces, que sais-je. Et pour moi, je vous bénis, madame de La Follette, je vous bénis de tout mon cœur. La sueur ruisselait toujours sur ses joues, et il l'essuyait du même geste machinal, sa bouche enfantine plissée d'un pâle sourire anxieux, ses yeux magnifiques touchés de biais par la lumière dorée du soir, frêle et tragique ainsi qu'une note déchirante à la cime de la symphonie. Son vieux corps gainé de noir, en apparence immobile, mais comme soulevé du dedans par une ferveur surhumaine, s'inclinait imperceptiblement à droite ou à gauche, tantôt ramassé sur lui-même, tantôt jeté en avant, portant ses coups invisibles avec une précision incomparable, une rapidité inouïe. Et cette espèce de dialectique mystérieuse, tout entière dans l'avidité sublime du regard, la prière muette des mains, l'élan presque terrible des maigres épaules, était si pressante que la grosse femme obscure, dans son coin d'ombre, reculait lentement, hochait la tête, sa large face bouleversée par une sorte de mélancolie. Elle disparut. Alors l'abbé Chevance s'assit au bord de son lit et ferma les yeux. Une petite brise entrait par la fenêtre ouverte et il lui présentait son visage, il en cherchait humblement la caresse avec un frémissement de fatigue. La souffrance vague mais profonde, essentielle, qu'il endurait depuis un temps, il ne sut dire quel temps, était à cette minute comme engourdie, ou plutôt il la sentait plus vague encore, diffuse insidieusement, répandue à travers le corps entier, charriée par le sang et la lymphe, partout présente. Un autre que lui eût sans doute épuisé tôt son courage, dans une lutte inégale, gaspillant quelques jours les réserves de l'âme dont chaque homme n'a ici-bas que sa juste mesure, mais il durait cependant, par un miracle de douceur et d'abandon, une docilité céleste. Ainsi qu'un enfant ouvre ses petits bras à la mort par un geste sacré, il s'était livré du premier coup, incapable d'imaginer nulle défense, non pas seulement résigné à souffrir, mais dans l'extraordinaire ingénuité de son cœur, à souffrir petitement, bassement, lâchement, et à scandaliser le prochain. Il ne se méprisait même pas. Il se prenait simplement en pitié, il déplorait son mal, comme s'il eût déploré celui d'un insecte ou celui de ces plantes innocentes qu'il achetait parfois et qui se flétrissaient vite parce qu'il oubliait de les arroser. « Je suis naturellement frivole », aimait-il à répéter de sa voix grave et chantante, voulant probablement exprimer par là qu'il manquait totalement de cette force d'âme tant admirée, tant désirée. « Notre Seigneur, disait-il encore, envoie aux grands de son royaume la douleur privilégiée, mais aux petites gens, la détresse et l'humiliation. » Ayant reçu enfin officiellement l'annonce de sa très prochaine nomination à une nouvelle paroisse de banlieue, si pauvre qu'elle avait rebuté les plus hardis, il avait aussitôt formé le projet d'aller camper sur un terrain vague, lotissement acheté par l'archevêché en vue d'y construire une chapelle provisoire et un baraquement de planches goudronnées, baptisé presbytère. Mais le chanoine mesurier, son protecteur, l'en dissuada vite, faisant craindre qu'un tel empressement parût fâcheux et comme inconvenant à son éminence. « Prenez garde de trop vous hâter, conseillait cet homme sagace, vous auriez l'air de donner des leçons à vos supérieurs. » Or, ce que l'abbé Chevance pouvait redouter de plus, en un moment de sa vie qu'il imaginait si important, si décisif, c'était justement de passer pour manquer de prudence, vertu cardinale, qu'il prétendait avoir eu beaucoup de peine à acquérir, mais qu'il recherchait toujours en secret, tourmenté de doutes et de scrupules, avec une patience et une assiduité de fourmi. Un bon curé doit être un bon administrateur. Concédait-il à chaque visite au chanoine son ami,
avec un sérieux émouvant, bien qu'il se fît toujours de l'administration et de ses secrets l'idée la plus baroque. Mais on le savait, aussi bon quêteur que mauvais comptable, étant de ces hommes simples, nés pour traverser modestement la vie des riches et des voluptueux, tenant la pauvreté par la main. Il avait donc quitté sa chambre de l'hôtel Saint-Étienne et loué tout près de la station du tramway suburbain le hideux garni qu'il jugeait néanmoins fort décent. Levé avant l'aube, trottant jusqu'au soir par la plaine aride qui fermente sous le soleil d'août, il avait senti dès le premier jour, à sa profonde stupeur, que les forces lui manquaient déjà, que le vieux corps pris au dépourvu allait peut-être refuser sa tâche. Si un tel homme eût été capable de désespoir, il se fût dès ce moment effondré. Mais le désespoir n'est pour lui qu'un de ces mots vagues et abstraits, sur lesquels il n'a jamais longtemps arrêté sa pensée. Les âmes si pures sont impuissantes à l'imaginer d'elles-mêmes, elles l'ignorent, du moins jusqu'à ce que la patiente sagacité de la haine ait fini par découvrir quelque imperceptible fissure à leur innocente sérénité. Il ne connut pas le désespoir, mais une honte amère. Certain de n'avoir jamais rien fait de bon, ni même d'utile, c'est donc ainsi qu'il allait manquer l'occasion unique, inattendue. D'avouer cette faiblesse à ses supérieurs l'eût tué sur place. Il n'y pouvait songer sans une défaillance intolérable. Sa crainte était aussi qu'on l'a su trop tôt, qu'on lui refusât la magnifique, la suprême chance de sa déplorable vie. Alors il résolut de fermer sa porte, ne se montra plus, rêvant d'épuiser peut-être sa misère, de la consommer en secret. Vain espoir! En une semaine, cette solitude héroïque acheva de l'accabler. N'ayant jamais connu d'autre remède à ses peines que de prodiguer à autrui, au plus fort de la tristesse, les étonnantes consolations d'un cœur dévoré de paternité, ce repliement sur soi-même l'étouffa. Il en faisait parfois l'aveu à la hideuse compagne de son agonie. Il tentait de forcer son indifférence stupide, prodiguant dans cette folle entreprise, jetant à pleine main les puissances sacrées de son être, sa flamme insigne, tout le génie de sa charité. Ainsi achevait-il de se vider de son sang mystique. Car il croyait s'établir dans la solitude qu'il s'enfonçait déjà sous les ombres. La chair qu'il avait réduite, domptée avec une si implacable douceur, saisie déjà par le froid éternel, gémissait d'angoisse, et bien qu'une volonté presque surhumaine la retint encore esclave, elle détachait sournoisement ses liens pour obéir une première fois à la loi de sa nature, pour faire à part son agonie. Cette espèce de plainte monotone, comparable au murmure dans la nuit lointaine du troupeau abandonné, humble, incessante, l'amollissait, quoiqu'il y fermât d'instinct son âme. Et presque à son insu, il souhaitait le visage d'un ami. Entre tant de présences désirables, celle de Mademoiselle de Clergery eût été plus douce à son cœur. La fille de l'historien Serville, mort presque centenaire, et qu'on a vu survivre inexplicablement à tant de renommées rivales et haïes, qu'il avait patiemment rongées de ses dents laborieuses, infatigables, n'est pour tous à présent qu'un pauvre fantôme évanoui. Le drame obscur dans lequel s'est perdue cette petite vie si claire, là comme recouverte à jamais d'une nappe de boue, scellée dans un de ces mille faits divers au goût ignoble. L'oubli qu'elle avait tellement désiré lui a été ainsi dispensé, sous cette forme hideuse, et qu'elle y doit donc dormir en paix. La tendresse de l'abbé Chevance pour la seule de ses filles, sans doute, qui risqua de lui faire honneur aux yeux du monde, était connue de M. de Clergery, et il n'y pensait pas sans inquiétude, tenant le bonhomme pour original, après l'avoir un moment vanté comme un autre Vincent de Paul. C'est le sort de l'ancien desservant de retenir ainsi l'attention des sots et leur admiration même par une simplicité dont il croit saisir aisément le secret. Qu'une pareille fraîcheur est bonne! Quelle fleur sauvage dérobée au jardin du paradis! Seulement, dès qu'il approche de près, le plus grossier ou le plus retors reçoit à l'improviste, avec stupeur ou avec rage, la brusque révélation d'une force mystérieuse, à laquelle il ose à peine donner un nom, d'ailleurs toujours choisi à dessein, toujours faux. Ils s'avisent tous à la fois, mais trop tard, que ce prêtre est mal élevé.
M. de Clergéry s'en est avisé comme eux assez vite et n'a pas seulé à sa fille l'amertume de cette déception. Puis il s'est plaint, non sans dignité paternelle, d'avoir à prendre parti en un tel débat, car son autorité, il n'en doute, s'arrête au fort interne. Il s'y décide néanmoins. Sa conviction est désormais faite. L'abbé Chevan se semble un prêtre excellent, ses supérieurs l'estiment, louent son zèle. Mais ce qui mérite d'être loué ne vaut pas toujours d'être imité sans prudence. Une jeune fille est tenue à plus de réserve que personne, la malveillance la guette. Élire pour directeur un homme qui prête à rire, même innocemment, ne va pas sans risque qu'une cervelle de 20 ans aurait du mal à imaginer. Il y a de la présomption dans votre choix, je le crains. Prenez donc un autre directeur, conclut-il, du moins officiel. Je ne vous refuse pas la permission de visiter celui-là, je le crois inoffensif. Aidez-moi seulement à décourager la médisance. Que vous reprocherai-je? Que vous reprocherai-je? J'ai moi-même été pris un temps au charme extraordinaire, évangélique, de votre vénérable ami. Je le respecte infiniment. Je le respecterai toujours. Elle ouvrit plus grand ses yeux calmes, un peu rieurs. Pauvre abbé Chevance, vous verrez qu'il aura de la peine. Ma chère Chantal, commença l'historien servile. Oh, je veux dire seulement qu'il sera surpris, un peu, au moment même, voilà. Et puis il oubliera très vite. Rassurez-vous, il est si distrait. Non, non, ma chère Chantal, reprit gravement M. de Clergéry. Tu ne peux me tromper. Alors elle secoua de nouveau la tête en riant, se glissa plus près, mit une main sur chaque épaule de son père, offrit aux yeux étroits et clignotants son regard inaltérable. Je ne vous trompe jamais, dit-elle. Ce n'est pas vrai. Je suis heureuse ainsi, toujours, toujours. N'êtes-vous pas content que je sois heureuse? Je n'ai jamais de peine, papa. M'en voulez-vous d'être heureuse? Il saisit au vol la petite main, aussitôt frémissante et docile entre ses doigts. Tu m'inquiètes, Chantal, au contraire, dit-il sincèrement. Je ne suis pas sûr de comprendre. Mon Dieu, certes, tu es incapable de te dérober. Pourquoi ai-je l'impression de te poursuivre sans t'atteindre, de te manquer d'un rien, d'un cheveu, comme en rêve? Je te manque chaque fois d'un cheveu, voilà le mot. Avant de répondre, elle fronça les sourcils. C'est peut-être, fit-elle, que vous calculez un peu trop. Les historiens sont ainsi, je pense. Alors je déjoue vos calculs sans le vouloir. Vous me prenez pour un navire bien gréé, bien chargé, avec une riche cargaison, un capitaine étonnant, tout ce qu'il faut. Et je ne suis qu'un pauvre petit bateau vide qui va comme il peut. Si, tu me trompes, reprit M. de Clergéry. Tu me trompes sans le vouloir, faute de t'astreindre une minute à voir par mes yeux, à parler mon langage, à te justifier par des raisons que je puisse entendre. Que veux-tu que je connaisse de toi, ma chère enfant, sinon ce que chacun de nous laisse paraître dans la vie familiale, quotidienne, de ses habitudes, de ses goûts, ses préférences, enfin? Or, tu n'as pas de préférence, tu sembles contente de tout. Cela serait déjà monstrueux à ton âge. Mais il y a pis, tu ne saurais donner aucun prétexte à cette perpétuelle allégresse. Il faut la prendre telle qu'elle. Elle est parce qu'elle est. Mon Dieu, prenez-la donc comme elle me vient, dit-elle. Je ne suis pas si compliquée. Nous y voilà. Oh, mon rôle est facile à tenir, fit-il avec amertume. Elle tourna vers lui un regard si limpide et si triste qu'il ne put le soutenir et rougit légèrement. Accorde-moi du moins que j'ai le droit de m'étonner un peu. Tu n'as jamais menti. Tu es la loyauté même. Eh bien, supposons, tiens, en vue de ton établissement par exemple, supposons qu'il me soit posé certaines questions très simples. Je n'y pourrais répondre. Quelle espèce de femme seras-tu? Bien malin qui le dirait. Tu te plais dans ta maison, soit. Tu parais plutôt casanière. Mais si je t'annonce demain notre départ pour les Indes ou le Canada, tu en recevras la nouvelle, je le parie, avec le même sourire content. Aimes-tu le monde? Ne l'aimes-tu pas? Ceci est encore un problème. Je ne l'ai pas résolu. Tu y montres une vivacité, une sensibilité charmante. Juste assez pour plaire, pas assez pour que je sois sûr que tu t'y plaises réellement. Tu es fidèle à tes amis, jusque dans les petites choses, jusqu'aux scrupules. et pourtant tu ne parais pas souffrir de leur abandon, tu te laisses tromper avec bonne humeur, pour ne pas dire avec une naïveté déconcertante. Quelquefois la volonté se dénonce brusquement, comme par éclair, puis elle reprend aussitôt sa place, docilement, dans le cours paisible de ta vie. Où va-t-elle? Où la caches-tu? Car tu la caches. Il faudrait être aveugle, il faudrait ne t'avoir jamais vu, pour douter que tu ressembles à ta pauvre mère, que tu as le même cœur, la même passion. Je te regarde aller et venir avec un pressentiment si douloureux. Oh, tu n'es pas de celles, je le sens bien, qui évitent l'obstacle, ou au moins savent le tourner. Sur quel obstacle te briseras-tu? Je me le demande. Ne pleure pas, Chantal, s'écria-t-il tout à coup, je suis un pauvre homme. Elle ne pleurait pas, bien que sa bouche tremblât de fatigue. Mais je ne pleure pas, fit-elle en tâchant de rire. Je voudrais tant vous contenter. Seulement, vous m'observez sans cesse. Vous voyez en moi beaucoup de choses. Je ne les vois pas, moi. Non, je vous assure. Elle ferma le poing, appuya dessus son menton, et les yeux mi-clos, son fin visage tendu par l'effort, elle dit doucement, « Je suis très, très simple. Voilà tout. » Elle pâlit aussitôt, comme si on lui eût arraché un secret enfantin. « Je te demande pardon, reprit M. le Clergerie. Je te fais peut-être du mal. Il est si difficile d'interroger sans offenser. Certes, tu as une nature exquise, mais non, cela n'explique pas tout. À 18 ans, on fait des rêves. Quels rêves fais-tu ? » ?»« Des rêves ? » demanda Mademoiselle Chantal. « Oui, enfin, des rêves d'avenir. »« Oh, je ne me soucie pas de l'avenir, » fit-elle en secouant la tête. « Vous y avez pourvu. À quoi bon ?» Comprends-moi donc, tu n'es pas de ces têtes légères qui ne peuvent rien prévoir au-delà du lendemain. Tu as au contraire l'attitude, le regard, la voix, que sais-je, la sérénité d'une femme qui a fait son choix pris parti. Car enfin, cette espèce d'allégresse a un sens. Lequel ? Tu ne rêves pas, dis-tu. Eh bien, ton silence même est plein d'un rêve qui te fait sourire à ton insu. Elle laissa tomber ses bras, découragée. « Que voulez-vous que je réponde, papa ? Je suis ainsi, ne vous fâchez pas. Il me semble que je ne pourrais être autrement. L'avenir ne me fait pas peur, il ne me fait pas envie non plus. Les grandes épreuves sont pour les grandes âmes, n'est-ce pas ? Les petites passent tout doucement au travers. Eh bien, je ne suis pas une grande âme. Comme disait ce vieux pauvre impitoyable que j'ai rencontré un jour, moi, ma vocation est de recevoir. Il me faut si peu pour vivre. » Alors je me tiens sagement sous le porche de l'église, je tends la main au bon Dieu, je pense qu'il y mettra bien toujours dessous. C'est très joli, riposta froidement M. de Clergerie, cela mène tout droit chez les Clarisses. Chez les Clarisses, s'écria-t-elle en riant. Seigneur, où prenez-vous que je puisse être jamais Clarisse ou seulement Carmélite? Il passa nerveusement ses doigts dans sa barbe. Je ne te contredirai pas, fit-il, pas du tout. Je te crois une piété solide, éclairé même, néanmoins très calme, très raisonnable. Raison de plus pour ne pas emprunter si légèrement aux mystiques une règle de vie faite pour eux. Hélas, tout son visage frémissait de joie, je n'emprunte que ma part, la part du mendiant, vous avez 1000 fois raison. Ai-je l'air d'une jeune personne à rechercher l'humiliation, la pauvreté, l'obéissance? Je n'irai jamais au-devant d'elle, rassurez-vous. Je mourrai de peur dès le premier pas. Ce que vous appelez ma sérénité, mon allégresse, c'est justement cette certitude de n'être bonne à rien, et aussi l'espoir d'être, au dernier jour, jugée comme telle, de bénéficier d'un traitement de faveur. Je ne veux pas me défendre. Voyez mon chien Tabalot. Que je fasse mine de courir dessus, il se sauve. Que je le poursuive réellement, il se met tout de suite sur le dos, les pattes en l'air. Voilà, je ne me défends pas. Je voudrais que Dieu n'en demandât pas plus. Je ne défie personne, ni la douleur, ni la mort, ni même le plus petit ennui. Je craindrais de les réveiller, de les mettre en colère. Si l'épreuve s'avançait vers moi, je reculerais sans doute un peu. D'abord, c'est naturel. Mais je me persuaderais aussitôt que je ne suis pas de force, je m'étendrais par terre, je rentrerais la tête dans les épaules en fermant les yeux. Il n'y a peut-être au fond qu'un seul héroïsme, mais je suis sûr qu'il y a 100 manières d'avoir peur, et je voudrais que le bon Dieu daignât m'enseigner celle qui lui déplaît moins. On a toujours assez de force pour recevoir les coups sans les rendre, et dès qu'on n'attend pas autre chose de soi, qu'on n'en demande pas plus, on finit par dormir tranquille. Ce n'est pas la crainte qui tient éveillé, c'est le calcul des chances. Monsieur de Clergerie l'avait écouté sans un geste. Lorsqu'elle se tut, il l'observa longtemps encore, avec une attention extraordinaire. Puis, de ses deux mains ouvertes, il ramassa nerveusement les papiers épars sur la table, ainsi qu'un avocat battu fait de son dossier. « Tu t'amuses, » dit-il. Sa tête vénérable oscilla lentement, comme s'il se fût répondu à lui-même un « non » anxieux. 40 années d'un labeur vide et têtu, poursuivi à travers tant d'intrigues non moins vaines que lui, l'expérience amère de son propre néant, la crainte puérile de toute vérité, de toute simplicité où sa méfiance ne voit qu'une ruse complexe, un mensonge d'une espèce moins facile à déceler, toute sa vie enfin, la médiocrité intolérable de sa vie, parut en clair dans ses yeux gris, vite dérobés. Il soupira profondément. « Cela est bel et bon, » dit-il encore. « Mais vague, bien vague. Non, ce n'est pas une règle de conduite. Je te fais d'ailleurs remarquer que tu n'as pas répondu aux questions que je t'avais posées. » Il leva la tête, siffla rêveusement. « Note bien que j'approuve. J'approuve ce qu'il est possible d'approuver. Seulement, j'appartiens, grâce à Dieu, à une génération qui a prouvé plus loin qu'aucune autre la perfection des méthodes de mesure, d'analyse, de contrôle. Je ne suis pas l'ennemi du surnaturel, j'entends rester même un catholique irréprochable, et pourtant je crois fermement qu'à quelques exceptions près, dont l'ensemble constitue le fait miraculeux, jusqu'à présent irréductible, nous restons, toi et moi, nous tous, dans la dépendance étroite des circonstances et des conjonctures, et ton rêve d'acceptation pure et simple m'apparaît irréalisable. Je doute fort qu'il ne t'apparaisse ainsi à toi-même, que ton attitude ne soit forcée. Allons donc. » Il frappa légèrement de la paume sur le bord de la table. « Tu ne me feras pas croire que tu fasses si aisément le sacrifice de ton directeur, par exemple. »« Pourquoi ? » dit-elle. « Oh, vous m'avez mal entendu. Vous parlez de sacrifice. Je n'en suis pas encore là, voyez-vous. Je ne saurais sacrifier personne. Vous me prenez trop au sérieux, papa. Voilà le mal. Il m'en coûte si peu d'obéir que je suis bien forcé de croire que mes peines valent ce que je vaux, qui ne vaut rien. Je ne sais pas souffrir, j'en ai honte. Peut-être n'apprendrai-je jamais. » Cependant, fit-il, tu aurais pu montrer, témoigner de... Enfin, il me semble. C'est invraisemblable, mon enfant. L'abbé Chevance t'a toujours marqué une affection. Je voulais justement te prier sans doute de choisir un confesseur plus sage, moins pittoresque. Mais je ne pensais pas du tout d'interdire. Enfin, il te suffira d'espacer tes visites, simplement. « Je vous remercie, » dit Chantal, « je suis heureuse pour lui. »« Tu vois, » s'écria-t-il, en la regardant de biais, « tu savais comme moi que cette rupture lui serait désagréable, douloureuse même. Il t'aime beaucoup. » Elle ouvrit la bouche, remua les lèvres, rougit. Puis, avec un emportement mystérieux qui n'effaça pas son sourire, elle dit, de sa voix douce, inaltérable comme son regard, « Oh, lui, papa, il ne tient pas beaucoup à ceux qu'il aime. » « Voilà votre déjeuner, » annonça Madame de La Follette tranquillement, bien que sur un ton d'exceptionnelle gravité. Seulement, comme elle repoussait la porte d'une ruade discrète de sa grosse pantoufle fourrée, elle vit à droite, étendu, immobile, le corps de l'abbé Chevance, la face tournée contre le mur. « Sûr qu'il est mort, misère !» murmura la pauvre femme entre ses dents. « Il est dit qu'il ne fera rien comme les autres, vieux fou. Une histoire à vous tourner le sang, et à mon retour d'âge encore. » Le haricot fumait sur la nappe. Le réveil matin, tombé dans la ruelle, y battait aussi bêtement que jamais. Déjà, elle regagnait le seuil à reculons, les yeux baissés, lorsque, le plus naturellement du monde, le mort se souleva sur ses coudes, tourna lentement, puis réussit enfin à s'asseoir. « Quelle sotte aventure » bredouillait-il. « J'ai glissé sur le carreau, sans doute. Fait un faux pas. Je vous demande pardon. »« Glisser sur le carreau ? Ah là là ! dit madame de La Follette, vexée. Avec ça que vous avez la mine d'avoir fait un faux pas, peut-être. Je voudrais que vous vous regardiez dans la glace. Vous ne savez pas encore où vous êtes, malheur.
Mais si, je le sais très bien, répliqua monsieur l'abbé Chevance avec un peu d'aigreur. Croirait-on ?
Ce n'est qu'un étourdissement, tout au plus. Je n'ai pas perdu connaissance une seconde. Je me suis très nettement senti tomber.
Entendu, fit la concierge. Tâchez de le croire si vous pouvez.
Pour moi, vous vous en êtes allé de faiblesse. Faut vous refaire du sang.
Mangez toujours, tant que c'est chaud.
Il s'était mis debout et remuait douloureusement la tête, le regard ivre. Enfin, il gagna la table à petits pas, saisit une chaise de sa main pesante et s'y laissa brusquement glisser, un terrible sourire aux lèvres.
« Voilà, voilà, disait-il de sa voix docile. Je vous remercie, madame de La Follette. Je crois nécessaire de réparer mes forces.
Le jour baisse, madame de La Follette. Le jour baisse terriblement. Je n'y vois plus guère, madame de La Follette.
Que vous dites ? S'écria-t-elle, encore méfiante.
Au lieu de plaisanter, mangez donc, ça vaudra mieux. J'attends que vous ayez fini pour descendre. Monsieur de La Follette fait sa partie, mais il va rentrer d'une minute à l'autre, et il n'aime pas trop poser, cet homme-là. »
Elle l'observait sournoisement, se régalait sans méchanceté d'un spectacle semblable à ceux de la rue, où l'horrible même est cocasse. Le sourire hébété du malheureux, la lenteur calculée de ses gestes, leur maladresse, un dandinement bizarre qu'il réprimait soudain, tout continuait à donner au pauvre prêtre un air de solennité grotesque, et tel qu'on envoie aux ivrognes pensifs et laborieux, d'un trottoir à l'autre, traçant lentement leur route à travers la foule frivole. Et justement, à cette minute même, par la fenêtre, tout à coup immense dans le soir, et la grave rumeur du dehors allant s'affaiblissant, ainsi qu'à la pointe du jet d'eau qui tremble une aigrette d'écume, l'atroce refrain d'une chanson de café-concert monta de la rue, assourdi, méconnaissable, inexplicablement pur, avec une bouffée de brise fraîche. « Madame de La Follette, dit-il, vers 15 ans, au petit séminaire de Montligeon, excusez-moi, j'ai dû engloutir de grandes quantités de viande crue sur l'ordre du médecin, sur l'ordre formel, comprenez-vous ? D'y penser, aujourd'hui encore, le cœur me manque. Quel dégoût ! » Il atteignit le plat, remplit son assiette jusqu'au bord, et tenant sa fourchette dans son poing fermé, commença de manger avec une hâte extraordinaire, voracement.
« Ça va, dit la concierge, vous vous refaites, vous avez déjà meilleure mine. »
Je sens un grand vide dans ma tête, avoua le pauvre homme, la bouche pleine. Mon récent étourdissement venait de là, peut-être. Il y a de la faiblesse dans mon cas, c'est sûr. Sa voix gardait une espèce d'enjouement qui rassurait madame de La Follette, tandis qu'elle ne pouvait détacher son regard du visage embrasé, étincelant, mais frappé de stupeur, où les mâchoires seules remuaient.
« J'ai très soif !» fit-il encore.
Il se servit coup sur coup deux verres de vin qu'il avala d'un trait. Un mince filet rouge glissa lentement de la commissure des lèvres jusqu'à son menton.
« Il faudra que vous allumiez la lampe, » reprit-il doucement.
« Le soir vient tôt. Jadis, ô madame de La Follette, sur les étangs de mon pays, sur les étangs, c'est curieux, le jour n'en finit pas de mourir, c'est très curieux. » Et il y a une heure fraîche, très fraîche, la plus fraîche, quand nous menons boire nos bœufs, les belles bêtes. La maison n'est pas loin, au bout du sentier qui paraît noir dans les arbres, sous les arbres. C'est le paradis. J'y conduirai mes enfants, mes pauvres enfants. Jugez-en, madame de La Follette. Je connais des femmes qui nourrissent leurs bébés avec des soupes d'épluchures. Il faudrait beaucoup de lait, beaucoup de lait. Il y a du lait qui se perd, madame de La Follette. Il coule à côté du seau dans l'herbe, une mousse blanche, la rosée l'efface peu à peu. Tant de lait gâché. Je l'ai dit à la fille de Simon Clos en revenant de l'école. « Sylvie, Sylvie, veille à poser ton seau d'aplomb, ma fille. » Elle a rempli son sabot dans la fontaine et m'a jeté l'eau à la figure. « Attrape, attrape, en plein sur mon petit tablier neuf. »
« Quoi, éminence, éminence, il y a de nos gens qui meurent de faim. » Qu'est-ce que vous voulez que je dise à des gens qui meurent de faim ?
Il remplit de nouveau son verre, le porta en tremblant jusqu'à ses lèvres, puis, l'ayant flairé deux fois, le reposa gravement sur la table.
Hé là, hé là ! Cria Madame de la Follette. Elle le vit tourner la tête comme s'il entendait ou s'efforçait d'entendre des profondeurs de son rêve, et elle écoutait aussi claquer les gencives dans la bouche vide. « Voyons, voyons, dit-elle, vous dormez, n'est-ce pas ? C'est embêtant. » Il faisait signe qu'on ne s'inquiétât pas, qu'on le laissât. La vieille main traça dans l'air un signe obscur, puis s'abattit doucement vers la nappe, s'y blottit sur le dos, la paume en l'air, ainsi qu'une bête qui meurt. « Madame de la Follette, murmura-t-il, vous pouvez sans inconvénient parler plus haut. Je le disais hier à monsieur l'archiprêtre, un peu de sommeil me suffit, très peu de sommeil. Quelle heure est-il ? Bah, je sais que vous vous effrayez à tort. Si, je vous assure. Je comprends tout, madame de la Follette, absolument tout. Je vous aperçois très distinctement, la table, le verre, voilà même la nappe que je serre entre mes doigts, comme ça, tenez. Ainsi, qu'il ne soit plus question de cette bêtise. Qu'on n'en sache rien, je vous en prie. Promettez-moi.
Les yeux ! Hurla madame de la Follette. Il me rendra folle !
Car il venait de lever sa misérable face aux mâchoires infatigables, et deux globes gris, noyés de larmes, virèrent lentement, majestueusement, sous les cils, puis tournèrent sur eux-mêmes, et découvrirent de nouveau la prunelle hagarde et contractée.
« Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? » gémissait la concierge, dévorée d'une curiosité plus forte que la peur. « Qu'est-ce qu'il a, bon Dieu de Polichinelle ? »
Elle recula vivement, se glissa le long du mur, y resta collée de tout son corps, les bras étendus, avec un rauque soupir d'attention. Le malheureux prêtre avait saisi les bords de la table à pleine main et courbé en deux, jetant les épaules en avant, comme arraché du sol par la suffocation inexorable, sa bouche ouverte mordant l'air perfide, il défendait terriblement sa vie en gémissant. Elle voyait, sous la sueur, la peau ruisselante se tachait peu à peu de rouge sombre, le nez livide, le hideux ondulement du cou. Un long moment, l'homme et la mort se regardèrent ainsi face à face, front contre front, sans fléchir. Puis la vieille poitrine, comme crevée enfin, s'affaissa, se creusa sous le drap noir, le râle de la gorge s'éteignit, et un dernier haut-le-cœur jeta sur la nappe un petit tas de boue sanglante.
Le cochon, mais c'est qu'il est ivre, pensait madame de la Follette, ses 10 doigts pressés sur ses lèvres, fascinée.
Sans doute avait-elle parlé tout haut à son insu, car la même voix qu'elle eut reconnue entre 1000 répondit après un silence.
« Non, je ne suis pas ivre, madame de la Follette. Écoutez plutôt, écoutez bien. Cela va déjà mieux. Cela s'arrange. Vous allez, vous irez de ce pas, appeler, retenir un fiacre, une voiture enfin, immédiatement. J'ai une démarche urgente, excessivement urgente, indispensable.
Fait comme vous voilà. Tout de même, dit-elle, rouge de confusion.
Reposez-vous, je vais chercher monsieur de la Follette. S'il n'est pas là, voyons, le collègue du 12 bis ne me refusera pas un coup de main. On vous mettra au lit, c'est le lit qu'il vous faut, sûr et certain. »
Elle attendit la réponse 1 minute, puis 2, puis 3. Elle vint enfin, articuler avec lenteur, presque un murmure, mais du même ton de douceur inflexible. « Je ne bouge pas, j'attends. C'est pour éviter une nouvelle crise, par prudence, comprenez-vous ? Uniquement. »
Les forces reviennent. Courez vite retenir une voiture, madame de la Follette. L'abbé Sénabre.
Allons donc, fit-elle. Soyez raisonnable. Ça peut se remettre à demain.
Il était resté à la place où la noire campagne avait desserré son étreinte, les bras croisés, la face appuyée sur la nappe. Il répondit patiemment. Non, non, pas demain. Aujourd'hui. Je puis être alité 5 jours, 1 semaine, qui sait. Perdez-vous la tête pour si peu ? N'avez-vous pas honte, madame de la Follette ? Si vous tardez encore, mais j'irai la chercher moi-même, cette voiture. Je serai debout dans 5 minutes, je me connais.
Ah, là, je viens, madame de la Follette. Je dois me ménager, sinon vous ne me verriez pas si accablée. Ces sortes de crises me sont beaucoup plus familières que vous ne pensez. J'avoue que la durée de celle-ci m'a un peu surpris. « Étonné. Là, là, c'est bon. Me voilà sur pied maintenant. » Elle recula devant lui en frémissant.
Il avançait d'un pas inégal, un bras légèrement tendu, l'autre inerte, sa face marbrée toujours ruisselante de sueur, les joues souillées d'une écume grise qui avait coulé jusqu'à son épaule, les yeux mi-clos. S'écartant pour lui livrer passage, elle le vit chanceler contre le mur, y appuyer ses deux mains, puis il revint droit vers elle, aperçut son propre visage dans la glace et sourit.
« Je ne suis pas beau à voir. Quelle horreur » dit-il.
« Mais quoi, nous ne devons pas juger les gens sur la mine, madame de la Follette. Un peu d'eau fera l'affaire. Il n'y paraîtra... »«
Eh bien !» s'écria madame de la Follette. « Eh bien !»